Cette semaine, Christian Rosset nous propose une série qui parcourt l'histoire du quatuor à cordes depuis son invention au XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Premier volet avec Miguel da Silva et Bernard Fournier.
Tenter de parcourir l'histoire du quatuor à cordes, de son invention à nos jours, traçant la carte des navigations, relevant écueils, îlots et phares, abordant même par surprise des terres inconnues, n'est pas une mince affaire. Car comme cette forme n'a cessé de s'imposer, s'avérant de plus en plus nécessaire et même fondamentale pour l'aventure de l'esprit créateur, son territoire, passé, présent et avenir mêlé, est devenu un véritable labyrinthe dont la modestie de notre entreprise ne nous permettra pas d'explorer tous les trajets potentiels. Alors, plutôt que de survoler ce territoire en suivant docilement les lignes apparentes, ou de regretter de n'avoir le temps de s'égarer, il nous sera plus utile de rechercher et de préciser les nœuds, ce qui s'offre et résiste à l'analyse comme novateur et producteur de sens. Peut-on dire qu'on a le sens du quatuor comme on a celui de l'équilibre ou du risque? Qui le possède peut dès lors, au premier son, goûter tous les plaisirs offerts par cette conversation en chambre dont l'esprit de nudité, au sens de dépouillement ou d'assaise, ne doit pas refouler l'intense sensualité qui se dégage d'une écoute tendue, concentrée, ouverte. Deux invités pour cette série, l'altiste Miguel da Silva, membre du Quatuor Isaï, qui se confronte avec réussite à plus de 2 siècles d'histoire, et Bernard Fournier, premier violon de 2 quatuors amateurs, et auteur d'une esthétique et d'une histoire du quatuor à cordes publié chez Fayard. 2 épais volumes parus, 1/3 en préparation. Mais avant de donner la parole à Bernard Fournier, quelques secondes encore de ce rêve énigmatique d'un quatuor d'avant le quatuor, moment d'une préhistoire fantôme inventée par le Chronos Quartet, arrangeant des musiques pour voix ou pour viol, chef-d'œuvre des plus grands compositeurs d'antan, Perrotin, Machaut, Thalys, Dolande, Christopher Tye ou Henry Purcell, dont on s'aperçoit qu'il nous parle bien mieux aujourd'hui que nombre de nos récents aïeux. Est-ce qu'il y a une origine précise du quatuor à cordes? Un premier quatuor à cordes?
Non, il n'y a pas d'origine précise. Les choses sont extrêmement floues. Ce qu'on peut remarquer d'abord, c'est que les instruments du quatuor à cordes, les 2 violons et l'alto violoncelle, avaient existé déjà depuis les années 1600. Et il a fallu attendre effectivement les années 1760, donc 160 ans plus tard, pour qu'effectivement les compositeurs aient eu l'idée d'associer ces 4 instruments-là, et ces 4 instruments seulement, et notamment instruments qui étaient émancipés de la basse continue, parce que la véritable naissance du quatuor, c'est l'émancipation de la basse continue du point de vue instrumental.
C'est-à-dire
la basse continue, le clavecin qui donnait la base harmonique sur laquelle les autres instruments tissaient leur conversation. Parce que, curieusement, il y avait déjà des conversations avant. La conversation est carrément inhérente à la musique instrumentale. Et d'ailleurs, bien avant la naissance spécifique du quatuor, avant les années 1760, certains compositeurs avaient écrit des œuvres dialoguées, des œuvres qui effectivement mettaient en scène le dialogue instrumental, avec des instruments différents que de ceux du quatuor. Donc je pense que la naissance est complexe, lente, et les véritables quatuors apparaîtront dans les années 1770 réellement. Ça commence en 1760. Et c'est véritablement 1770 que la forme va prendre son véritable sens. Et en fait, ça pose tout de suite un premier problème qui est celui de quel quatuor. Parce que nous, on est habitué à considérer que le quatuor, c'est le quatuor viennois, parce qu'effectivement, la tradition veut que ce soit Haydn qui ait écrit le premier quatuor, ce qui n'est pas sûr, parce que peut-être d'autres compositeurs en Europe en ont composé avant lui. On connaît bien les circonstances de la naissance de ce premier quatuor de Haydn. Mais ce qui est important peut-être de discuter, c'est de savoir de quel quatuor s'agit-il. Parce que parallèlement, naissait en Italie et en France d'autres types de quatuors, notamment le quatuor français, qui aura une signification tout à fait différente et qui d'ailleurs débouchera sur une sorte de cul-de-sac. Et on peut dire que le quatuor viennois est ce qu'il est et a donné lieu à la tradition qui mène presque jusqu'à aujourd'hui. grâce au génie de Haydn, qui a su imposer son modèle, un modèle dont serait intéressant de parler d'ailleurs, qui est à la fois un modèle formel et une conception de l'organisation des voix dans le quatuor. Il a imposé ce modèle, de préférence à un modèle plus léger, plus facile, qui était le modèle français, qui reposait et qui était essentiellement une musique de divertissement.
Est-ce que dès le départ, le quatuor à cordes hiérarchise les quatre personnages, si on peut parler de personnages?
Ben moi, je ne dirais pas qu'il les hiérarchise. Enfin, il les hiérarchise peut-être de fait, parce que, et surtout peut-être encore chez Haydn, le premier violon va jouer un rôle important. Il est peut-être le meneur de jeu de la conversation, mais il va au contraire chercher à les équilibrer. Et c'est justement ça qui fait la différence entre le quatuor viennois et le quatuor français. Le quatuor français, qui a comme, sous-ensemble, le quatuor concertant ou le quatuor brillant, consiste justement à établir une hiérarchie très précise et très figée entre les instruments, avec un instrument soliste et des instruments d'accompagnement. Même dans le quatuor concertant, où la partie soliste passe d'une voix à l'autre, elle le fait à travers de grandes sections qui font que finalement les règles du jeu ne changent pas. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même situation d'énonciation du discours où une voix parle et les autres l'accompagnent de manière d'ailleurs assez inconsistante. Les accompagnements des quatuors concertants français sont des éléments très légers, très peu différenciés les uns des autres. Donc on est vraiment dans une situation de monologue. Même si la phrase va, au bout de 8 mesures, passer à un autre, ou de 16 mesures, passer à un autre instrument. On est quand même dans une esthétique concertante qui n'est justement pas l'esthétique de la conversation, de la vraie conversation telle que va la réaliser le quatuor. Da Silva, vous êtes altiste du quatuor Isaïe. Est-ce que vous avez ce sentiment de converser avec vos partenaires?
Tout à fait. Le dialogue pour un quartettiste est la base même de ce métier. Mais pour reprendre ce que vient de dire Bernard Fournier, je trouve ça tout à fait très très intéressant, parce que tous les quartettistes dans le monde entier ont par rapport à Haydn un petit peu toujours cette image qu'il y a dans tous les livres de musicologie de père spirituel du quatuor. Alors, c'est vrai que le canevas qu'il va développer, qu'il va définir, c'est le canevas sur lequel on va rebondir jusqu'à nos jours, jusqu'à la musique du XXe siècle. Mais il ne faut pas oublier que ses premiers opus sont d'un style très, très italien, je veux dire. Ça n'est pas... tout est en gestation. On sent que dans les opus 1, dans les opus 2, les choses sont à développer. Les lignes sont encore un petit peu primaires. On sent que dans les mouvements lents, notamment le dramatisme est sous-jacent, que les choses vont arriver dans ces derniers opus, enfin vont se développer. Mais on ne peut pas parler a priori, je veux dire, de départ avec Haydn. Les quatre voix, la genèse des quatre voix, c'est autant l'art de la fugue, autant les madrigaux de Monteverdi. Je me souviens que au début de notre travail avec le quatuor Isaïe, pour bien comprendre ce que pouvait être la justesse en rapport aux uns et aux autres, il nous arrivait de travailler des pas du Anna, de Schulz, des choses comme ça. Mais ce qui veut dire que quatre voix, en fin de compte, peuvent déjà être, enfin quatre tessitures, peuvent déjà appartenir à une idée, une entité de quatuor.
est-ce qu'on peut parler en termes de transformation plutôt que de rupture, ce passage au quatuor, par rapport aux formes qui l'ont précédé à quatre voix?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais préciser, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Miguel. Je n'ai pas parlé des voix parce que je me suis de l'aspect vocal parce que j'ai pris en compte la naissance du quatuor instrumental, mais c'est vrai que le quatuor vocal existe depuis Perrotin, et donc bien sûr il y a aussi cette tradition là, et c'est tout à fait un aspect intéressant. Et d'ailleurs il y a un rapport assez précis entre l'organisation des tessitures du quatuor à cordes, entre premier violon, deuxième violon, alto, violoncelle, et les quatre voix du quatuor vocal. C'est quelque chose qui est clair. Simplement, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où, dans le cadre de la musique instrumentale, les quatre voix vont fonctionner de manière autonome sur ce modèle-là, mais elles vont faire néanmoins tout autre chose. C'est ce qu'on va voir. Et deuxièmement, en ce qui concerne les premiers quatuors de Haydn, je reviens là-dessus, et ça c'est aussi très important, parce que c'est tout à fait le génie de Haydn qui s'exprime ainsi. C'est vrai qu'au début, les quatuors de l'opus 1, l'opus 2, n'ont pas grand-chose à voir avec ce que va être le quatuor. Mais c'est justement ça qui est remarquable. C'est donc que ce mouvement va se faire de manière progressive et continue. Les quatuors sont en cinq mouvements, alors que la forme, Haydn, dès l'opus 9, va instituer la forme sonate en quatre mouvements, qui aura la descendance que l'on connaît. Et le dialogue instrumental lui-même est extrêmement précaire, alors que dès l'opus 20, que moi je considère comme la véritable naissance du quatuor, c'est quatuor 20 de Haydn qu'on appelle les quatuors du soleil, et à juste titre, parce que la page de frontispice, porter un soleil, on les appelait comme ça, quatuor du soleil, mais ils métaphorisent l'apparition du soleil du quatuor sur l'Europe, et véritablement les quatuors du opus 20 de Haydn vont diffuser dans toute l'Europe et imposer petit à petit ce modèle qui est un modèle sérieux, structuré, élaboré, reposant sur le dialogue instrumental par rapport, je le répète encore et c'est important, par rapport au modèle français qui lui avait beaucoup de succès à l'époque. Donc il faut bien comprendre qu'il y a eu un enjeu qu'on a oublié aujourd'hui parce que ce modèle du quatuor français a disparu, mais il y a eu un enjeu fondamental, et que cet enjeu a été gagné par le quatuor viennois, parce que deux compositeurs géniaux au 18e, Haydn et Mozart, ont imposé avec des chefs-d'œuvre une solution complexe sur une solution plus légère et plus publique au sens du divertissement. Le quatuor français est un quatuor qui s'intéressait à la mise en œuvre d'airs variés de concerts, qui reproduisait d'autres types de musique, qui n'était absolument pas émancipé de la musique vocale, alors que justement, et là je reviens sur le problème quatuor-voix, le quatuor stylise la voix d'une certaine manière, mais il s'émancipe, il va justement complètement s'émanciper de l'écriture vocale. Les premiers mouvements lents de Bach sont encore écrits dans des formes d'aria, concert d'aria. Et à partir de l'opus 20, justement, Haydn va s'en dégager et introduire dans les mouvements lents aussi d'autres formes qui vont être celles du quatuor et qui vont permettre justement ce dialogue. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a un rapport extrêmement précis entre la façon d'écrire pour quatre voix et la forme elle-même. Et ça, je crois que c'est un point très important. Le rapport entre quatuor et forme sonate est un rapport nécessaire et qui s'est imposé jusque dans les années 50 comme nécessaire. On verra peut-être plus tard comment ce rapport a été subverti et a donné lieu à autre chose, mais au départ, il y a un rapport très précis entre la forme et le matériau.
Alors, est-ce que le quatuor à cordes peut être considéré dès ses débuts comme un terrain de recherche pour les compositeurs par rapport au reste de leur œuvre, ou est-ce qu'au fond c'est pareil?
Ah oui, je pense qu'il y a une certaine forme de nudité sonore, une forme de... Si on part du postulat que la musique est peut-être l'art le plus abstrait, je dirais que le quatuor, en tout cas à l'intérieur de la musique, est la forme musicale la plus abstraite et pour laquelle il y a le moins d'artifice. Donc en ce sens, je pense que c'est un grand champ d'expérience pour les compositeurs. Que ce soit à la période de Haydn ou jusqu'à nos jours, je crois que tous les compositeurs ont essayé de faire exploser ce cadre défini dès les années 1960. Et je crois que certains, bien sûr pour ne parler que de Beethoven par exemple, a complètement, c'est une musique visionnaire, c'est la musique du chaos Beethoven, il a complètement fait exploser, je veux dire, ce qui peut rendre, lorsqu'on est devant un quatuor de Beethoven, on se sent complètement dépassé. On se sent dépassé par la, comment, par la tension que cette musique demande, par le chaos, par la rupture. Donc tout ça pour dire que le quatuor est sans artifice. Peut-être les compositeurs peuvent penser qu'il y a moins de possibilités de colorier, entre guillemets, la musique que lorsqu'on s'adresse à l'orchestre, bien sûr. Et donc je crois que là, il faut que la qualité, je veux dire, d'écriture soit de tout premier ordre, la qualité de la polyphonie, de l'harmonie. Il faut que tous les ingrédients soient mis ensemble pour vraiment aboutir à une chose essentielle.
Haydn lui-même a été un grand expérimentateur, c'est-à-dire que l'histoire de ses 68 quatuors, c'est l'histoire d'une recherche permanente à travers les différents cycles de cahiers de 6 quatuors qu'il a publiés tous les 10 ans, puis de manière plus rapprochée, et chaque fois, il se pose un problème nouveau par rapport au quatuor. Alors bien sûr, et je rejoins en cela Miguel, il n'a pas inventé des choses aussi spectaculaires, aussi profondes et aussi vertigineuses que ce qu'on va trouver avec Beethoven, mais il a posé les bases et il l'a fait d'une manière qui n'était pas du tout intellectuelle, entre guillemets, qui était tout à fait pragmatique. Haydn a un côté expérimentateur, et donc il est devant le chaudron du quatuor et il en sort successivement des cahiers tous remarquables à partir de plus 20, un véritable chef-d'œuvre sur le plan musical, et qui chaque fois, effectivement, apporte quelque chose de nouveau, soit sur le plan formel, la manière dont les mouvements s'organisent, soit sur le plan du matériau, soit sur le plan harmonique. Et c'est intéressant de rapprocher de ce point de vue-là Haydn et Mozart. Mozart n'est pas du tout un expérimentateur formel. Mozart se coule avec une espèce d'aisance extraordinaire dans la forme sonate quand il la découvre, et c'est pas dans ce domaine-là qu'il va apporter son originalité principale, c'est plutôt dans le langage harmonique, dans une forme d'expression et dans le dialogue instrumental. Parce que, précisément, autant Haydn continuera à écrire des quatuors avec une certaine prééminence du premier violon, même s'il y a des passages dialogués, autant Mozart a une écriture immédiatement plus dialogique, qui culmine dans des pages comme le développement du quatuor 421, qui est du premier mouvement, qui est une page qu'aurait pu écrire Beethoven de ce point de vue-là. On est déjà dans ce que j'appelle l'écriture dialogique, et dont on pourra parler un petit peu tout à l'heure. Tandis que Haydn, lui, est beaucoup plus centré sur le discours en général, dont les rênes sont tenues par le premier violon. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que Haydn tenait dans le quatuor, puisqu'il était aussi instrumentiste, tenait la partie de premier violon, alors que Mozart, quand ils ont joué ensemble, tenait la partie d'alto. Et cela montre d'ailleurs le fait que l'altiste dans le quatuor a une position centrale qui est beaucoup plus peut-être préoccupée de l'équilibre général de l'ensemble. Ça ne veut pas dire que les quatuors de Haydn ne sont pas équilibrés, mais la vision de Haydn sur le quatuor est plutôt une vision de premier violon, alors que celle de Mozart sera plutôt une vision d'altiste, à la fois en tant que conception de la structure des voix et aussi en tant que mode d'expression, parce que l'alto est un instrument qui a un côté plus, avec une sonorité plus rauque et donc des possibilités d'expression plus désespérées, si j'ose dire, que le violon. Et la musique de Mozart, si on pense à l'Adagio du Köchel 428, c'est déjà une musique de l'angoisse et du désespoir.
Alors l'alto, Miguel da Silva.
Oui, je crois que Bernard Fournier l'a parfaitement décrit dans son esthétique sur le quatuor à cordes, le caractère et le rôle de l'alto dans un quatuor. Il parle de que l'alto observe les choses de l'intérieur. Je crois que c'est tout à fait ça. L'alto est un petit peu à la croisée des chemins, des différents dialogues. Et je crois que c'est quelqu'un qui entend le quatuor d'une manière intériorisée. Et donc il peut se permettre de... Enfin, il peut se permettre. Il est à la place idéale, géographiquement, j'entends, pour entendre vraiment les problèmes d'équilibre, les problèmes d'hétérogénéité, encore que l'hétérogénéité dans un quatuor n'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, ça, on pourra en parler peut-être plus tard. Il n'y a pas que l'homogénéité. Enfin, je veux dire, on peut voir le quatuor à cordes résonnant, jouant comme un instrument à 16 cordes, où on peut voir le quatuor, et encore une fois Bernard le définit très bien dans son livre, on peut voir le quatuor comme entité musicale, mais joué par quatre cerveaux, et donc par quatre personnalités dissemblables. Donc tout ça pour dire que vraiment l'altiste voit les choses à l'intérieur, entend les choses à l'intérieur, et c'est celui qui peut, par son rôle de médiateur, jauger et équilibrer et définir les choses d'une manière peut-être un petit peu plus précise que le premier violon, qui est lui tourné, schématiquement parlant, enfin métaphoriquement parlant, un peu plus vers le public, vers la lumière. Il y a une notion dans le premier violon de projection, hein, que l'alto aussi, par sa sonorité, comme l'a défini Bernard, rauque, qui est une sonorité plus en phase avec une certaine forme d'introspection, avec son son très évocateur. Je le compare souvent, compare souvent à la clarinette, mais ça c'est, oui, Brahms à la fin de sa vie, Mozart, comment ont compris ce timbre assez parallèle, assez proche entre la clarinette et l'alto. Moi je le comparais un petit peu plus quand j'entends Nuages de Debussy, par exemple, pour orchestre, je compare un tout petit peu plus au cor anglais à l'orchestre. Cette sonorité avec ce pouvoir est incroyablement évocateur.
Cette question de l'harmonie est vraiment au centre.
Oui, l'harmonie est au sens de l'harmonie entre les voix. Oui, oui, elle est absolument au centre. Et je crois que là, je remercie Miguel d'avoir fait allusion à ça. Et justement, je crois qu'un des enjeux, plusieurs enjeux dans le quatuor à cordes. D'abord, il faudrait peut-être qu'on parle de l'enjeu du 4. Pourquoi 4 musiciens? Mais le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'homogénéité, effectivement. Le quatuor à cordes propose 4 instruments aux sonorités homogènes. Et donc, effectivement, on s'attend à ce que naturellement, la sonorité du quatuor soit homogène. Et d'une certaine manière, elle doit l'être et elle l'est. Mais l'homogénéité, il faut penser à ce qu'est l'homogénéité et à ce qu'elle permet. Toute la logique du quatuor à cordes, c'est justement de jouer sur des possibilités de fusion qui viennent de l'homogénéité et de dissociation, de personnalisation des voix et d'indifférenciation. Donc en fait, les compositeurs qui ont compris ce qu'était le fonctionnement du quatuor sont ceux qui réellement ont mis en œuvre cette dialectique. C'est-à-dire qu'ils n'ont justement pas fait seulement du quatuor quelque chose d'homogène où tout coulerait comme un long fleuve tranquille sans que rien ne se passe, du point de vue sonore, mais ils ont cherché justement à jouer de ce rapport entre individualisation, personnalisation des voix d'un côté et différenciation. Et là, c'est intéressant de prendre un exemple avec un autre instrument homogène à 4 voix, qui est le piano. Dans le piano, on a 4 voix homogènes, mais le piano est un instrument fusionné. C'est-à-dire que vous le veuillez ou non, les 4 voix sont là et vous ne pourrez pas faire en sorte qu'elles soient autres que ce qu'elles sont. Tandis que le quatuor est un instrument fusionnel, c'est-à-dire qu'il a des possibilités de fusion, mais il a d'autres possibilités. Et l'histoire du quatuor à cordes, c'est ça qui est intéressant, va aller dans le sens de l'hétérogénéité précisément. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'homogénéité suscite ou est capable de générer l'hétérogénéité, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si vous prenez maintenant des groupes homogènes, quand vous associez un piano et un violon, vous ne ferez jamais que le piano joue comme un violon. Par contre, quand vous associez 4 instruments d'un quatuor, vous pourrez en faire en sorte, à la fois en jouant sur les timbres, le timbre rauque de l'alco, en jouant sur les textures, et puis on le verra en jouant sur les modes de jeu, qui vont se développer au début du XXe siècle, mais qui commencent déjà à apparaître des Beethoven dans le quatuor opus 131, le sud ponticello du presto d'opus 131, on va voir qu'on peut déjà travailler avec le quatuor donc sur différents niveaux et faire apparaître véritablement une hétérogénéité de voix à l'intérieur de cette homogénéité des 4. Thank you.
Les chemins de la musique, le quatuor à cordes ou la conversation en chambre, par Christian Rosset, avec la participation de Bernard Fournier et Miguel Da Silva. Réalisation, Olivier Daligo, Olivier Dupré, François Viette. Musique de Purcell, Haydn et Mozart, par les quatuors Chronos, Tatraille, Hagen, Prazak et Isaïe.